Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Tout pile sur RMC, l'intégral sport se poursuit jusqu'à 20h. Olivier Giraud est toujours avec nous. Et Olivier, on a un peu voulu te faire plaisir sur le programme de cette heure qui vient. 19h45, je le disais, un petit jeune que tu as guidé à une époque, hein. Un certain Nicolas Karabatic, triple champion olympique, sera avec nous pour parler de la nouvelle saison à venir au PSG Hand et puis également de l'équipe de France. Il y a un mondial en janvier prochain qui se déroulera en Europe, en Pologne et en Suède, notamment du golf. Ça aussi, ça va te plaire puisqu'il y a une véritable guerre sur le circuit professionnel avec l'émergence d'une nouvelle ligue, la LIV Golf, ligue soutenue par le Fonds souverain d'Arabie Saoudite, et de véritables ponts d'or sont proposés aux meilleurs golfeurs de la planète pour la rejoindre, des centaines de millions de dollars.
Tout simplement.
Sans avoir tapé un drive.
C'est ça qui est
magnifique. Pour commencer. Du rugby avec notre invité, le capitaine du CA Brive Corrèze Limousin, dans une demi-heure, Thomas Larangera. Brive qui sort d'une saison difficile avec un maintien acquis à la dernière journée. On en parle sur RMC. Le 32-16 est ouvert, hashtag RMC Live, l'appli direct au studio pour vos réactions, vos messages. Tu sais qu'on nous écoute même à la plage en ce moment, plage de Lomi, avec ce message de Jean-Baptiste. Voilà, il y a les enfants, on surveille les enfants et puis on bronze à côté en écoutant l'intégral sport.
Tranquille.
C'est pas mal avec l'appli
Tranquille.
RMC.
Et c'est pratique l'appli.
Exactement. On peut écouter partout, même quand on capte pas la fréquence FM. Allez Olivier, je t'invite à sortir tes plus beaux crochets.
Mathieu, c'est un boxeur de qualité. Il a toujours envie de travailler.
Il accélère Mathieu, voilà, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Mathieu Roderick qui a enfin accéléré. Là il y a eu un changement de rythme.
C'est ce qu'on attendait de lui.
Et Kravitz, crochet droit, crochet gauche. Crochet droit qui est passé, crochet gauche. Il est en train de toucher là Mathieu. Est-ce qu'il va être capable d'en terminer? En tout cas il a complètement durci le combat. Et il retravaille encore une nouvelle fois Mathieu.
Magnifique ce travail de Mathieu, magnifique.
Ah oui,
voilà. Mathieu.
Et on accueille Alexandre Herbinet de la rédaction. Salut Alexandre.
Salut messieurs.
Et notre invité, c'est du solide, la team solide d'abord. Oui, les Jeux de Rio 2016 où il a ramené une médaille de bronze et puis ensuite une carrière pro des plus prometteuses. 20 victoires dont 11 avant la limite pour une seule défaite il y a déjà plus de 5 ans. Notre invité est le champion d'Europe EBU des mi-lourds, Mathieu Boderlic. Salut Mathieu.
Bonjour à tous, bonjour la France.
Et on est heureux de t'accueillir, bonjour la France, parce que chez toi il y a 6 heures de moins, il est 13 heures, tu es à Montréal, c'est ça?
C'est exact, exactement. On vient depuis maintenant 5 ans, 4 ans pardon, pour peaufiner, pour s'expérimenter, pour progresser dans le monde professionnel.
Parce que là-bas, tu as des bonnes structures d'entraînement. Qu'est-ce qui te fait que tu te prépares à Montréal?
Parce que les gens sont investis, hein, simplement, et on a les sparring aussi adéquats qui ne refusent personne. Et notamment mon second entraîneur, qui a un peu plus de 20 champions du monde, 20 championnats du monde à son actif, dont 3 champions du monde, Lucien But, Jean-Pascal, Kim Clavel actuellement, récemment, la semaine dernière, était champion du monde WBC. Donc il a une très grosse expérience et c'est pas à négliger.
Mathieu nous parle de Stéphane Larouche, qui est un grand coach canadien, donc de boxe, et c'est chez lui qu'il va trouver, voilà, l'expérience d'un coach qui a façonné plusieurs champions du monde. Et puis là-bas, Mathieu, tu peux croiser Christian dans MBLI, dans Montréal, tu
bien
le croises
sûr.
Un peu?
Eh oui. Bien sûr, oui, bon, on s'est texté, hein. On s'est eu au téléphone, on s'est rendu compte un peu tardivement, parce que je pensais qu'il était en France et lui pensait que j'étais en France aussi, donc on s'est connecté un peu tardivement et moi je suis un peu resté au focus dans ma préparation. Donc malheureusement on s'est pas vu cette fois-ci, mais habituellement on a tendance à se voir, se faire un petit repas et se rappeler les bonnes époques.
La team solide investit Montréal, messieurs. C'est,
exactement. Voilà.
D'ailleurs, dans les commentaires, on a entendu un de vos anciens coachs, John Dovey, qui est
celui qui a commenté tes premiers combats.
Mais oui.
Exactement, qui a commenté moult soirées pour nous et non des combats de Mathieu à l'époque.
Alors Mathieu, on est heureux de t'avoir, surtout que tu es en pleine préparation d'un combat à ne pas manquer. C'est le 20 août prochain sur la carte de la revanche, Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk pour un championnat du monde des poids lourds. Et toi Mathieu, tu vas boxer face à Callum Smith qui est classé à peu près numéro 4 mondial et récemment challenger de Saul Canelo Alvarez il y a 2 ans pour une ceinture mondiale. Mathieu, sans en faire trop, c'est quand même un challenge super excitant, une demi-finale mondiale des mi-lourds WBC.
Exactement, exactement. Pour moi, déjà, en termes de visibilité, c'est extraordinaire. Boxer sur une carte comme ça, dans un championnat du monde, chez les poids lourds en plus, donc il y aura l'exposition et c'est important pour nous. Et forcément, si on veut prétendre à un championnat du monde, il faut valider cette étape. Un ancien champion du monde chez les super moyens, Callum Smith, qui est de renommée, qui est connu aussi du grand public. Donc voilà, il faut passer cette étape si on veut prétendre à un championnat du monde par la suite. Et je suis de table. En tout cas, on a mis tous les moyens de son côté. Et la préparation a été à la hauteur de l'événement. Donc non, il faut pas être frustré, faut pas sous-estimer et on sera à la hauteur de l'événement.
Mathieu, on entend beaucoup de calme dans ta voix. C'est peut-être Montréal qui te donne cet effet-là. On sait que dans la boxe, c'est toujours dur. Il faut toujours s'entraîner très très dur. Mais il y a des moments importants, les combats d'une vie, des combats qui sont le tournant dans une carrière. Et celui-là en est un, invraisemblablement. Qu'est-ce qu'on change ? C'est déjà très dur la boxe. Qu'est-ce qui change dans une préparation où on sait que ça va être le combat d'une vie ? Qu'est-ce qu'on essaye d'apporter plus ? Peut-être ce voyage à Montréal est important, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu as changé pour aller encore plus loin dans ta préparation ?
Écoutez, à un niveau, il ne faut rien négliger. Dans la préparation, il faut déjà bien s'entourer, avoir les bons entraîneurs aussi autour, le bon cutman, le bon promoteur qui peut vous ramener au plus haut niveau et puis saisir les opportunités quand il se doit. Moi personnellement, je suis parti à Montréal pour sortir de mon confort, pour rester loin de ma famille, pour éviter de me disperser, pour éviter de me disperser dans la société et notamment dans la famille, parce que comme vous dites, c'est le combat de ma vie. Je veux rien négliger, je veux mettre tous les atouts de mon côté et je veux rien regretter à la fin du combat et me dire si j'avais su, j'aurais... Non, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Là, ça va faire 2 mois que j'ai pas vu ma famille. Même quand je vais au retour de la France, ma famille est en vacances parce qu'ils peuvent pas se priver. Je vais pas les priver parce que moi, je pars pas en vacances. Donc, je les ai envoyés simplement en vacances et à mon retour, ils seront pas là. Donc, ça va faire 2 mois. Deux mois que je ne les ai pas vus, donc forcément les dents traînent par terre. Hein. On a la dalle, on a faim, et on a mis tous les atouts de son côté, tous les moyens de son côté. Donc voilà, il n'y a plus qu'à maintenant, et on ne va rien regretter, il n'y aura pas d'excuses à la fin du combat, peu importe le résultat.
Juste Alexandre, Mathieu a parlé de cutman, rappelez ce rôle important hein, pour un boxeur, ce que c'est.
Le cutman, c'est celui qui va réparer les petites blessures qu'on peut avoir aux yeux, les petites coupures sur le côté, voilà, quand on fait le combat, quand on dispute le combat. Mathieu parlait de combat d'une vie, et faut bien pour nos auditeurs recontextualiser tout ça, mais c'est plus que vrai tout ce qu'il dit déjà, parce que on a adoré cette team Solidario, hein, ce Tony Yoka, Souleymane Sissoko, Christophe Billy, Mathieu Boderlic, et puis en fait de tous ces combattants là qui sont tous passés pro. Eh ben, c'est le plus gros combat qu'on ait eu pour l'instant, clairement et sans aucune ambiguïté. Le plus gros combat qu'il y ait eu pour quelqu'un de la team solide, c'est le combat que va faire Mathieu contre Callum Smith. Callum Smith, comme tu disais, c'est pas n'importe qui. Il n'était pas challenger de Canelo, il était le champion. Canelo a été lui chercher sa ceinture WBA des super moyens. Il était aussi le champion The Ring des super moyens, qui est la ceinture la plus prestigieuse à ce moment-là. C'est un vrai champion du monde, Callum Smith, parmi les meilleurs boxeurs anglais aujourd'hui. Et en plus, cerise sur le gâteau, Mathieu en parlait, on est sur une des plus grosses cartes de boxe de l'année, la revanche entre Anthony Joshua et Alexander Usyk pour 3 ceintures chez les poids lourds.
Quelle soirée.
L'exposition est maximum. On est à Jeddah en Arabie Saoudite. C'est plutôt pas mal pour nous niveau décalage horaire parce que le combat
ça, c'est clair.
Pas
ça fera pas 4 heures du matin. Ça c'est bien.
Donc c'est très bien pour l'exposition en France aussi. C'est le combat d'une vie clairement. Alors Callum Smith, il a une particularité, Mathieu aussi, tu le sais mieux que moi puisque tu l'as observé de sous toutes les coutures pour préparer ce combat. Il est grand. Déjà quand il était en super moyen, il était très grand. Il fait plus d'1m90. Je crois que t'as 5 c'est ou 6 centimètres de moins que lui. Qu'est-ce que tu crains ? Comment t'as préparé ce combat ? Qu'est-ce que tu crains le plus dans l'arsenal de Callum Smith, et est-ce que cette différence de taille aussi, ça fait partie des petites inquiétudes que tu peux avoir ?
Non, aucunement. Bien au contraire, je préfère boxer des personnes plus grandes que moi. Il a une forte qualité, Callum Smith, c'est d'être très bon derrière les attaques de son adversaire. Donc il remise très rapidement derrière, sur des crochets courts. C'est là qu'il va falloir être vigilant, parce que moi, parfois, je pêche un peu, parce que je m'emporte un peu, et je contrôle pas toujours mes émotions. Et parfois je néglige ma défense, mais On en fait notre force aussi. On a travaillé énormément sur ça. On a travaillé énormément sur le déplacement, sur les coups, sur l'efficacité des coups. Donc, pour moi, il y aura tous les atouts de notre côté et on aura tout. On aura mis vraiment tous les moyens pour pouvoir aller chercher ce combat.
On t'avait quitté sur une très belle soirée à Roland-Garros, où vous étiez plusieurs de la team solide. Il y avait évidemment Tony Yoka qui était le combat principal sur la carte. C'était un événement déjà difficile à gérer ou pas par rapport à l'attente, parce que par rapport à ce que représentait aussi Roland-Garros, le public. Est-ce que d'avoir bien su gérer cet événement va te servir pour un combat d'une toute autre importance, parce que on était sur une ceinture européenne, là on passe sur une demi-finale mondiale?
Non, écoutez, moi, personnellement, j'ai tout à gagner. J'ai rien à perdre, bien au contraire. Mis à part ma notoriété et de faire voir que je suis aussi pas là par hasard dans ce classement, deuxième WBC et lors de cet événement. Donc, non, il n'y a pas de hasard. Je suis là, je l'ai gagné cette place. Et pour moi, ce sera les petits détails qui feront la différence. Et je mérite cette place et on verra maintenant le jour J, le 20 août.
C'est important aussi dans cette soirée-là, donc comme c'est la soirée d'Anthony Joshua, superstar britannique, ouais, et anglaise, il y aura beaucoup de public anglais qui va regarder c'est un des plus gros pays de boxe en ce moment, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne de façon globale, et ils connaissent très bien Callum Smith. Donc si Mathieu bat Callum Smith devant tous ses spectateurs, je peux vous dire que le gain de notoriété de Mathieu, il va être explosif d'un coup.
Alors tu parles de l'Angleterre, moi je vais rebondir sur la France. On est à la recherche évidemment de, on a suivi tous la team solide, hein, j'y étais à Rio et on a envie de suivre un de nos champions, on a envie qu'il y ait un de nos champions qui réussisse. Est-ce que c'est pas pour te mettre la pression, parce que la pression tu sais te la mettre tout seul, mais tu deviendrais tout simplement le boxeur français qui serait suivi par tout un pays qui attend ce boxeur qui aurait une chance mondiale. Je pense que tu t'en rends compte aussi. Parce que moi, je vais le suivre, ce combat. Je vais le suivre, ce combat, parce que les lourds et les mi-lourds, avec les super welters, sont des catégories qui sont ultra suivies, ultra médiatisées. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un mi-lourd pas loin de sa chance mondiale. Donc, tu auras aussi toute la France derrière toi.
Mais c'est bien, tant mieux. Je suis bien content pour nos couleurs, pour notre sport surtout aussi, qui est beaucoup trop dans l'ombre à mon goût. Ça va mettre un peu de lumière dans notre catégorie, dans notre sport, et montrer aussi que les Français, on est capable aussi d'aller chercher des gros combats. Nordine Oubali l'a démontré aussi l'année dernière, récemment. Il a été 4 fois champion du monde WBC, donc on a un beau vivier. On a des beaux boxeurs. Maintenant, il faut nous donner cette chance et il faut nous donner les moyens de nous battre correctement et à la hauteur de notre image.
Souviens de Fabrice Thiozzo chez les Milours.
Mais il a bien raison, Mathieu. Bah oui. C'est une génération qui mériterait plus de lumière pour ce qu'elle réussit. C'est évident. Et là, c'est la beauté de la boxe, mais qu'on se projette toujours, même quand on a un gros combat. Et derrière ce combat d'une vie qu'a Mathieu le 20 août à Jeddah, eh ben, il y a peut-être un combat d'une vie encore plus important, puisque c'est une demi-finale WBC, la ceinture la plus prestigieuse, la ceinture verte, en tout cas, des 4 organisations. Et derrière, le vainqueur rencontrera Artur Beterbiev, le Russe d'ailleurs, qui est installé à Montréal. Donc pareil, tu dois peut-être le croiser de temps en temps avec Christian.
Ouais.
Et qui est une machine à mettre des KO, qui est vraiment une machine sur le ring, et qui possède 3 ceintures mondiales, 3 des 4, et qui pourrait affronter dans l'intervalle peut-être un Dimitri Bivol pour prendre la 4e. Possiblement, si les planètes s'alignent, Mathieu pourrait disputer un championnat du monde pour les 4 ceintures unifiées, ce qui est une rareté absolue en France. Donc je te mets pas la pression, Mathieu, mais tu sais qu'au bout de, au bout
il
de
a l'air d'aimer ça, la pression.
Au bout de ce combat d'une vie, tu sais qu'il y a un autre combat d'une vie qui peut t'attendre. Hein.
Bah oui, ça stimule et c'est bien. C'est des beaux événements, ça donne un peu envie aux petits jeunes aussi derrière qui nous suit, et ça montre aussi que nous aussi on est capable de faire des grands combats, d'être bien exposé et de gagner sa vie aussi à travers notre sport qui est très très difficile d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu le travail d'une longue
de longue haleine,
de travail,
bah
oui, exactement.
De la sueur, ça
c'est
y
pas
en
toujours
a vu,
payant.
Hein.
C'est pas toujours payant, malheureusement, pour certains. Moi, j'ai la chance d'avoir fait une médaille olympique et pouvoir vivre de mon sport, mais je soutiens vraiment nos boxeurs qui sont obligés de concilier le travail avec le sport, et c'est très très compliqué pour eux, parce que c'est dur d'avoir un employeur qui est compréhensible de se dire bah écoute, je peux te détacher une semaine parce que t'as un combat à préparer. Non, ça se fait plus et ça se fait très rarement où il faut travailler avec des communes. Et ça, c'est très dur pour.
Mathieu,
c'est pointe, très dur pointe. Parce qu'il est très peu reconnu. Ce
ouais, oui, tu pointes surtout, il est très reconnu, mais tu pointes la faiblesse de la promotion du golf depuis
de la boxe. Golf, ça sera tout à l'heure. C'est pas le même sport. Mathieu Bonnardi,
vous allez affronter
Tiger Woods, alors
Mathieu. Désolé, Mathieu,
c'est pas le même engagement.
Mais depuis une vingtaine d'années, c'est vrai qu'on est à la recherche de promoteurs sérieux qui remettent la boxe et les boxeurs professionnels à leur vraie place, parce que le niveau de boxe et la formation des boxeurs en France est excellente, sauf que le moment où, entre le moment où tu passes d'amateur à pro, il faut que tu aies les promoteurs, les bons promoteurs, pour pouvoir signer les bons contrats pour continuer ton métier.
On manque, il y a plus ces soirées, ces grandes soirées boxe qu'il y avait en France, il y a plus tout ça.
Était diffusé sur en temps clair. Hein,
voilà, ouais. Beaucoup de promoteurs, les promoteurs ont disparu. Il y a plus l'argent de la boxe, l'économie de la boxe en France, elle est plus aussi. Et ce qui parlait, le manque de reconnaissance, on a eu un exemple frappant, et je le cite parce que Mathieu en parlait, Nordine Oubali.
Bien
quand
sûr.
Il va conquérir son titre en 2019, il va conquérir un titre aux États-Unis, WBC, contre un Américain. Il le défend ensuite au Kazakhstan, je crois, et puis il le défend contre un Japonais au Japon. Cette année-là, si on regarde bien, Nordine, il aurait dû être sportif français de l'année. Mais sur les performances qu'il a faites, et tout le monde l'oubliait dans les classements, parce que la boxe n'est plus dans la lumière, tout simplement.
Avant de se quitter, Mathieu, bon, on voulait quand même pas dire un mot, saluer Hénin Beaumont, ta patrie, à laquelle tu es toujours attaché, mais on a quand même aussi une question sur les JO de Paris, parce que vous êtes quand même plusieurs à vous chauffer un petit peu pour 2024, même si c'est un peu loin, entre guillemets, il y a encore deux ans, mais c'est avec Souley Sissoko, c'est un petit peu dans un coin de votre tête, ces JO de Paris, parce que vous pouvez revenir, repasser de la boxe pro à la boxe amateur. Hein.
C'est probable, c'est possible, et puis... forcément, pour un sportif, de refaire les jeux, du moins, et dans son pays, ça peut être que extraordinaire. Mais tout va dépendre de ma carrière professionnelle. Si je suis bien avancé, si je suis pas un champion du monde d'ici là, il n'y a plus d'intérêt pour moi et je préfère laisser la chance aux petits jeunes derrière qui poussent et qui travaillent durement pour pouvoir atteindre ces Jeux Olympiques. Donc, je voudrais doubler personne. Maintenant, si on me donne l'occasion et l'opportunité de... J'ai été appelé hein, par la fédération et m'ont demandé si je voulais être de la partie parce que malheureusement, il n'y a pas encore... dans ma catégorie, il n'y a pas encore de boxeurs qui ont les armes pour pouvoir aller chercher une médaille olympique. Donc, on m'a fait part de...
De l'intérêt, de la volonté.
De l'intérêt, si je pouvais participer aux Jeux de 2024.
Et c'est la même analyse qu'a Souleymane Sissoko, hein, qui est consultant chez nous aussi et qui nous expliquait que c'est le déroulé de sa carrière pro qui décidera si oui ou non, et bien sûr l'état de la catégorie en France à ce moment-là, qui décidera si oui ou non il veut repartir pour un tour au JO à Paris.
Merci beaucoup Mathieu Boderlic. Le rendez-vous samedi 20 août à Jeddah avec ce combat contre Callum Smith. Évidemment, on va en parler. C'est toujours un plaisir d'avoir Mathieu depuis Montréal.
Plein de bonnes choses, Mathieu. Plein de bonnes choses pour
merci
le combat.
Merci beaucoup à vous. Merci.
Finger crossed, comme on dit à Montréal et au Canada aussi. Merci beaucoup, Mathieu. On croise les doigts, évidemment, pour cette demi-finale.
Je crois pas qu'on dise méga finger crossed à Montréal, mais.
Il y a une grosse partie anglophone à Montréal. J'ai été surpris.
Tu vois, je pensais qu'il parlait que français.
On croise les doigts. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Herbinet.
Merci à vous, messieurs.
On était heureux d'avoir Mathieu Boderlic. L'intégrale sport se poursuit. Il sera question de golf. T'as un petit peu anticipé en voyant Mathieu en golfeur. On va parler de ce qui se passe avec une nouvelle ligue émergente financée par l'Arabie Saoudite, la Live Golf.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Avec Olivier Giraud, on est ensemble jusqu'à 20h et tenez cette officialisation. Renato Sanchez est un joueur du Paris Saint-Germain. Un gros suspense, Olivier. Hein.
Gros suspense, mais tu sais, tant que c'est pas signé en bas de la page.
Oui, c'est vrai, il peut toujours y avoir quelque chose, visite médicale, on en a vu, des retournements de situation. Mais voilà, Christophe Galtier avait dit qu'il allait arriver, c'est officiel. Renato Sanchez quitte le LOS, quitte Lille, et donc un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Nous, on parle de golf pour évoquer ce qu'il se passe dans ce monde impitoyable, le monde du golf et des greens qui voient rouge. Pierre Thévenet de la rédaction est avec nous. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Arnaud.
Un petit rappel de ce qu'est de la situation et surtout de ce qu'est cette LIV Golf, une nouvelle ligue qui est apparue tout récemment.
Bah en fait, pour faire simple, tous les meilleurs golfeurs mondiaux participent normalement au PGA Tour. C'est créé en 1948, c'est l'équivalent de l'ATP en tennis un petit peu. C'est une organisation qui s'occupe de planifier les différents tournois et d'organiser le calendrier de la saison. Sauf que depuis cette saison, une nouvelle entité concurrence ce PGA Tour. Tu l'as dit, son nom c'est la LIV Golf, portée par un fonds d'investissement saoudien et avec à sa tête l'ex-golfeur Greg Norman, australien de 67 ans, qui est ancien numéro 1 mondial.
Le Shark.
Au programme de ce circuit, 8 dates entre le 9 juin dernier et le 30 octobre, avec des épreuves aux États-Unis, en Angleterre, en Arabie Saoudite bien sûr, et même en Thaïlande. Et bien sûr, des dates qui se chevauchent entre le circuit classique de la PGA et la Ligue Golf. Le week-end dernier, par exemple, il y avait deux compétitions en même temps, une à Détroit, le Rocket Mortgage Classic pour le PGA, et l'autre à Bedminster, dans le New Jersey, pour les rebelles qui ont rejoint cette nouvelle ligue.
Alors comment cette nouvelle ligue attire des golfeurs? On dit souvent l'argent est le nerf de la guerre. Enfin là, les montants sont juste colossaux.
Ah bah là, c'est clair, l'Arabie Saoudite envoie les pétrodollars à fond. L'Arabie Saoudite investit de plus en plus dans le monde du sport. Ils ont leur Grand Prix, ils ont investi dans le foot à Newcastle. Et donc maintenant, cette LIV Golf. Et là, on parle de sommes absolument délirantes qui sont offertes aux golfeurs pour rejoindre la ligue dissidente. La dernière offre en date, 700 à 800 millions de dollars proposés à Tiger Woods, qui a refusé et fait donc toujours partie du PGA Tour. C'est le patron de la LIV Golf, Greg Norman, qui l'a lui-même annoncé cette offre. D'autres ont répondu à l'appel des dollars et on peut les comprendre quand on voit les sommes. Phil Mickelson, 43 victoires sur le PGA Tour, a reçu une belle enveloppe de 200 millions de dollars, 150 millions pour Dustin Johnson, l'ex numéro 1 mondial, 100 millions pour Bryson DeChambeau, rajouté à cela 4 millions de dollars pour le gagnant de chaque tournoi et 18 millions pour le vainqueur du classement général à la fin de la saison.
4 millions, c'est le prix pour un majeur. Hein.
Dans du PGA, c'est deux fois moins. Voilà. Juste avant de t'entendre, Olivier, sur ça, il y a un nouvel épisode, Pierre. C'est ces stars qui sont partis du circuit PGA pour rejoindre notamment la LIV Golf, eh bien, attaquent le circuit américain en justice.
Exactement. 11 joueurs ont déposé plainte hier devant un tribunal de Californie, avec notamment Phil Mickelson, Bryson DeChambeau ou encore Ian Poulter. Ces golfeurs ont en fait été suspendus par le PGA qui les interdit de participer à ces tournois, car ils ont rejoint la ligue concurrente. Sauf que les tournois de la LIV Golf, ils sont en pause jusqu'au mois de septembre. Et les athlètes, ils veulent jouer et ils estiment qu'ils ont le droit de jouer où ils veulent. Et quand ils veulent, ils affirment que, je cite, « le circuit s'est évertué à nuire aux carrières et aux moyens de subsistance de tous les golfeurs ». En clair, les golfeurs suspendus estiment que le PGA Group nuit volontairement à leur carrière en tentant d'écraser la concurrence de la LIV Golf. Les réactions n'ont pas tardé, à commencer par les golfeurs du PGA Tour eux-mêmes, à l'image de Justin Thomas, vainqueur de la dernière épreuve du circuit, qui évoque un sentiment de trahison. Selon lui, si ces golfeurs attaquent le circuit, ils attaquent aussi les golfeurs qui en font toujours partie. Les dirigeants de ce circuit, eux, se défendent en disant que réintégrer ces athlètes le temps d'une compétition ferait du tort à la concurrence, qu'ils ont quitté le circuit et ce sont maintenant des employés de la LIV Golf, donc ils n'ont plus rien à faire dans le PGA Tour. Jay Monahan, qui est le commissaire du PGA Tour, a précisé dans un long courrier qu'il a adressé aux membres du circuit que ces golfeurs déserteurs avaient été prévenus depuis longtemps des risques auxquels ils s'exposaient et assuré qu'ils se préparaient à, je cite, « contester cette dernière tentative de déstabiliser le Tour ».
Bon, sur ce dernier point, Olivier, merci Pierre. On est quand même sur des structures privées, donc vous partez, voilà, assumez, puisque là, la position du PGA Tour est compréhensible.
Elle est compréhensive, mais là, ça va être un gros coup d'avocat, et tu sais, ce qui est...
Et là, l'américaine, c'est aussi des millions.
Ouais,
hein.
Et c'est le plus extraordinaire, ce sont des Américains qui attaquent le Tour américain. Ça ne s'est jamais vu, ça se voit très rarement dans le sport US. Je pense que, pour l'instant, ils sont dépourvus, parce que s'ils acceptent que ces joueurs puissent partir, revenir, ben c'est la fin de l'économie du PGA Tour qui rapporte des millions. Il faudra voir si la redistribution entre gains de droits télé, on sait toujours que c'est le nerf de la guerre de droits télé, et redistribution aux joueurs, c'est une pression qui sera mise plus tard par les joueurs qui vont rester. Le gros signe, et on en parlait il y a quelques semaines, si Tiger Woods, en termes d'image, acceptait de partir sur ce livre, c'était la fin du PGA Tour. Je pense que pour le PGA, les affaires de mœurs et les affaires personnelles de Tiger Woods et le rachat un petit peu d'une image dont il a besoin font que ça fait du bien au PGA Tour que Tiger Woods est refusé, parce que Tiger Woods ne joue pratiquement plus aucun
Oui, il n'en finit pas les tournois, non, on a vu, non, les majeurs,
il ne joue que les majeurs.
Oui.
C'est-à-dire que les majeurs, ils ne sont pas interdits de les faire, les majeurs d'ailleurs, ils ont été
c'est comme les grands chelems en tennis, c'est différent.
Au British Open, les acteurs du livre ont été sifflés au British Open.
Mais sur le tour régulier des tournois, effectivement, Tiger n'est pas là.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que le PGA Tour n'était pas préparé à une attaque aussi violente, tellement finalement la vie sur le PGA Tour se passait bien, il n'y avait aucun signe d'être attaqué aussi fortement. C'est-à-dire que quand même, c'est du jamais vu dans le sport, toucher 200 millions d'euros
juste sans... pour que tu dises oui.
Inscription sans se dire plus tard, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mais c'est surtout un signal fort envoyé sur l'économie du sport en général. C'est-à-dire que on va parler de quelque chose qui nous parle énormément à tous, c'est la Ligue des Champions, l'UEFA, tout simplement, avec cette première attaque qui a été faite par une compétition privée. Il est assurément je vais en mettre un petit peu plus, qu'il n'y aura une autre attaque sur la Ligue des Champions, et le sport que nous avons connu risque de changer dans les années à venir, parce que lorsqu'un Américain est capable de partir de, c'est comme si les Michael Jordan partaient de la NBA, on créait
aller jouer au Bulls de Riyad,
c'est du jamais vu sur les sports américains,
où ils sont très protectionnistes en fait,
très,
les Américains
très
parlent de libre, mais quand c'est leurs intérêts
exactement. Et il faut savoir que quand un Américain attaque un autre Américain, c'est que dans les statuts, c'est que certainement il y a une faille. Et s'il y a cette faille, c'est peut-être le début de la fin du PGA Tour.
Merci beaucoup Olivier, pour cet avis. On sait que tu suis le golf. Merci beaucoup Pierre, tu restes avec nous. Hein. Olivier, on va parler rugby et puis handball d'ici la fin de cette demi-heure dans l'Intégral Sport sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
19h29 dans l'Intégral Sport. On est toujours content de vous accompagner en ce jeudi 4 août sur RMC. Je vous rappelle l'information officielle. Renato Sanchez est un joueur du Paris Saint-Germain. Il s'est engagé jusqu'en 2027 avec le club de la capitale. Il quitte Lille où il était ses dernières saisons. Nous, on parle de rugby, et comme on parle de rugby sur RMC, ça signifie généralement Wilfried Templier. On accueille un invité dans un instant. C'est le capitaine et buteur du CA Brive Corrèze, mais notre voix du rugby à RMC est également avec nous. Salut Wilfried.
Salut Arnaud, salut à toutes et à tous.
Allez, encore un mois avant de voir le top 14 reprendre, et notre invité aujourd'hui, notre invité est aujourd'hui le capitaine et buteur du CA Brive Corrèze Limousin, Thomas Larangera. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Thomas. Évidemment une nouvelle saison 2022-2023 qui se profile, mais c'est vrai que est-ce qu'elle a été facile à digérer pendant cet été, la saison précédente avec ce maintien obtenu lors de la dernière journée, cette victoire au Stade Français, est-ce qu'elle fut dure à encaisser à la fois nerveusement et physiquement Thomas?
Oui, ça a été une saison très 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 compliquée, que ce soit mentalement ou physiquement. On s'est compliqué la tâche en devant gagner ce dernier match au Stade Français pour se maintenir dans ce top 14. Donc voilà, on a vécu une saison très compliquée. Maintenant, à nous d'apprendre aussi de cette saison. Je crois que les vacances ont fait du bien à tout le monde. On a pu se régénérer mentalement et physiquement. Et puis voilà, j'espère qu'on aura tiré des leçons de cette saison compliquée pour éviter certaines petites erreurs qu'on a pu faire l'année dernière, et puis donner la chance de vivre une saison plus simple.
Thomas, quand on regarde les résultats, alors on parle de saison compliquée l'année dernière. Pourtant, il n'y a pas, on va dire, grande différence sur dans les chiffres sur la saison d'avant. Il y a 5 points, c'est très important au classement, 5 points de moins par rapport à la saison précédente, mais de victoire, 5 points. Et alors que la saison d'avant, on avait loué quand même la saison briviste et les dernières saisons en général. En quoi elle était vraiment difficile? Qu'est-ce que vous avez vécu de difficile au-delà de jouer le maintien la dernière journée?
Là où elle a été difficile, c'est que notamment au niveau des déplacements, on a eu de grosses déconvenues, on n'a vraiment pas réussi à rivaliser lorsqu'on était en dehors de nos bases. Puis aujourd'hui, on se rend compte dans le championnat, c'est que si tu prends pas de points à l'extérieur, tu as du mal à exister. L'année d'avant, on avait eu la chance d'avoir 3 victoires à l'extérieur, qui nous avait permis quand même d'avoir ce petit écart de points avec la zone de relégation et de vivre une saison plus facile. On a fait une saison assez correcte à domicile, même s'il y a eu des défaites, mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde perd un peu chez eux. Le gros point noir, c'est surtout été les matchs à l'extérieur où on revenait à Brive avec les valises très lourdes et mentalement c'est toujours compliqué à tirer. On envoyait un mauvais message à nos adversaires aussi direct.
C'est ce que tu disais, ça vous enlèverait un peu de la pression à domicile où vous étiez quelque part dans l'obligation de gagner. Et c'est vrai, c'est peut-être ça qui vous a coûté. Il y a eu, c'est vrai que je note, ces défaites très courtes. 2 points contre La Rochelle, vous faites le nul contre Montpellier, 3 points contre l'UBB. Bon, quand on voit où on finit ces équipes en phase finale, il y a finalement pas de quoi rougir. Mais est-ce que c'est peut-être là aussi ce qui vous a manqué, un chouïa, avec cette pression obligatoire du résultat que vous y étiez mis quelque part avec ces valises, comme tu disais, à l'extérieur avant?
Ça résume notre saison. Après, comme tu l'as dit, on a eu des déconvenues à domicile face à de très grosses écuries, mais on a quand même fait des matchs super corrects. Il y a des défaites, certes, mais avec des scores quand même assez serrés. Donc ça voulait dire qu'on est capable de faire de bonnes choses. Après, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que certains joueurs dans l'équipe prennent de l'expérience. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont aussi révélés dans la difficulté l'année dernière et j'espère que tout ça va faire que cette expérience engendrée l'année dernière va nous permettre d'éviter les erreurs qu'on a pu commettre aujourd'hui et puis d'avoir des équipes un peu plus compétitives à l'extérieur pour avancer tranquillement et puis avoir une pression moindre à domicile. On sait que le championnat aujourd'hui est très 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 compliqué. Certes, nous on s'est maintenu à la dernière journée, mais on connaissait même pas le top 6 aussi avant la dernière journée. Donc c'est un championnat qui est hyper relevé. J'espère que cette expérience qu'on a pu engendrer sur cette saison compliquée va nous permettre de faire une saison avec moins de pression.
Il y a des hommes importants de retour dans le staff. Il y a quelques changements dans le staff, hein. Philippe Carbonneau autour des pros, Didier Faugeron qui a un rôle un peu transversal aussi. Des gens estampillés Brive quand même. On parle beaucoup dans les clubs, dans les équipes, d'identité. Thomas, c'est quoi l'identité briviste?
L'identité briviste, je crois qu'aujourd'hui on a une équipe quand même qui est assez craint lorsque les équipes viennent chez nous. Donc on a cet aspect un peu de combat qui est très important chez nous. On passe aussi un peu pour des pénibles. Une équipe qui s'accroche, qui se bat avec ses moyens. C'est les bases un peu de notre club, de ce que véhicule le CAB. Après, je crois qu'aujourd'hui, on a aussi des joueurs qui sont capables de faire de belles choses offensivement. Et je pense que le futur de l'équipe est assez positif de ce côté-là. Mais c'est vrai que ces valeurs de se battre les uns pour les autres, de combat, ça a toujours été un peu les valeurs de Brive et on essaie aussi d'avancer aussi avec ça.
Thomas Larangira, le capitaine du CA Brive, est avec nous dans l'Intégral Sport. Thomas, finalement, le mot d'ordre un petit peu pour la saison à venir, est-ce que c'est revanchard, j'allais dire, à titre collectif et même un peu à titre individuel après cette saison aussi compliquée par pas mal de pépins physiques te concernant?
C'est vrai que me concernant, j'ai été embêté par beaucoup de blessures, donc j'ai bien récupéré ces vacances. Je suis en train de faire une prépa avec l'équipe qui me fait aussi du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu faire une prépa d'été du début jusqu'à la fin. Pour l'instant, tout se passe bien, donc j'espère que ça va payer et puis que ces blessures seront derrière moi. Et après, d'un point de vue collectif, on a aujourd'hui l'objectif, c'est clair, c'est de se maintenir. Revanchard, je sais pas. En tout cas, l'envie de mieux faire, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de départs dans l'équipe, mais on a aussi pas mal de joueurs à avoir vécu cette saison-là. Et on a envie de vivre une saison autre que ce qu'on a pu vivre l'année dernière. J'espère que tout se passera mieux, en tout cas cette année.
Le buteur que tu es aussi est peut-être un peu revanchard. Quand on est buteur, Thomas, tu nous le diras peut-être pas, mais on aime on regarde les chiffres quand même, hein. Quand on a marqué plus de 300 points dans une saison de Pro D2, 300, on a regardé 344, je crois. Je sais pas si tu en 2000.
Je me souviens pas.
C'était énorme, hein. C'était énorme, hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu descendu avec les pépins que t'as connus. Puis après, c'est le top 14 aussi, hein. Est-ce qu'on a envie de se retrouver à jouer le concours un peu de réalisateur aussi, hein, dans le top 14?
Bien sûr, c'est toujours plaisant d'être sur le devant de la scène, de voir que le travail paye, de voir que t'es efficace pour l'équipe également, et puis individuellement, à titre individuel, ça fait toujours plaisir d'être performant sur un secteur qu'on le travaille depuis tout petit. L'objectif que je vais me mettre, c'est surtout être efficace lorsque je suis sur le terrain, pour vraiment aider l'équipe à performer et à remporter des rencontres, parce que on sait très bien qu'aujourd'hui tous les points qui sont à prendre sont bons et c'est important dans ce top 14.
Vous allez jouer le challenge européen parce que c'est comme ça. Est-ce que, voilà, quand on est sportif de haut niveau, on se dit, est-ce que ça a véritablement un sens? On a fait 12e de top 14, ce fut dur, et on se retrouve quand même européen.
C'est pas évident, Thomas, de répondre à cette question parce que des fois, on fait tourner. Les entraîneurs en profitent pour donner du temps de jeu à certains aussi dans cette compétition.
Mais moi, c'est une compétition que j'apprécie parce que, comme tu l'as dit, ça fait sortir un peu des joueurs du trou. En manque de temps de jeu, ça révèle des jeunes joueurs, ça permet aussi de travailler de nouvelles techniques. Je crois qu'elle peut apporter beaucoup de bonnes choses au sein du collectif.
Ça peut être des bouffées d'air dans une saison, justement, pour sortir du train-train du top 14.
Oui, des bouffées d'air. Et puis, franchement, ça remet aussi les pendules à l'heure parce que ceux qui n'ont pas trop joué depuis le début de saison, lorsqu'ils sont performants en challenge, les coachs, ils se grattent aussi un peu la tête. Ça remet un peu la concurrence au sein de l'effectif. D'aller jouer un peu partout en Europe, c'est aussi sympa, de voir d'autres stades, d'autres cultures, c'est aussi positif, et puis ça permet de souffler, de sortir de ce marathon du top 14.
Vous avez échappé à l'Afrique du Sud cette année, hein?
On a échappé à l'Afrique du Sud, c'est vrai que ça aurait été particulier et pas habituel. On va rester en Europe, c'est pas plus mal. On va voir ce que ça va donner, mais nous, en tout cas, on va se concentrer lorsque le challenge arrivera sur notre poule, parce que par le passé, on a réussi à sortir 2-3 fois des poules, à jouer des quarts finales, mais c'est super sympa. Les 10 dernières années, on a joué 2 quarts finales à Bath, à Newcastle. Franchement, on en tient des bons souvenirs et c'est plutôt agréable de jouer des phases finales. Donc, je pense qu'il faut jouer sans complexe, avec beaucoup de plaisir et puis sans pression.
Cardiff et le Connacht, notamment, pour célébrer vos programmes. Wilfried.
Et puis c'est le top 14 aussi qui va arriver, on l'a dit, dans moins d'un mois. Comment on vit le fait de jouer principalement et comme objectif le maintien? On va pas se mentir, Thomas, quand même, sur l'objectif principal du CAB, c'est de rester quand même en top 14. Est-ce que c'est pas un peu anxiogène, un peu inhibant, un peu quand on commence toujours l'année comme ça avec cet objectif principal?
Je crois que au fur et à mesure des années, on prend aussi l'habitude d'aborder ces genres de saisons. C'est anxiogène, certes, parce que on joue la survie d'un club, on joue la survie de nos carrières. Le CAB, c'est quand même une place importante dans la région, donc c'est une pression supplémentaire parce que le top 14, c'est important chez nous. Mais on prend aussi beaucoup de plaisir à jouer les pronostics, à remporter des gros matchs à domicile. C'est ce qui nous pousse aussi à travailler dur et à être performant parce que aujourd'hui, en regardant les pronostics, on est loin d'être favoris et c'est ce qui nous pousse à avancer.
Thomas, une dernière question sur ta polyvalence, parce que c'est vrai que on te présente un coup comme arrière, mais on sait aussi que tu peux évoluer au centre ou à l'ouverture. T'en tires une force ou tu as une préférence pour un de ces postes?
Mais c'est vrai que ça fait quelques années que je matche plus à l'arrière. Ça fait 4-5 ans où je suis un peu plus installé à l'arrière. Il y a eu un moment dans ma carrière où je me posais peut-être des questions à vouloir un peu plus m'installer à un poste ou à un autre. Je sais qu'aujourd'hui à l'arrière je suis plus à l'aise parce que ça fait quelques années que je matche plus souvent, mais je me pose pas forcément trop de questions. Si on me demande de jouer à l'ouverture au centre, ça sera avec grand plaisir et ça sera au service du collectif. Je crois que j'arrive à un moment de ma carrière où il faut que je prenne beaucoup de plaisir sur le terrain, à jouer un maximum et peu importe au poste où je joue.
Et Arnaud, pour finir, on peut le souligner, 11e saison, il me semble, au CAB qui arrive, c'est ça. Thomas, il n'y en a pas beaucoup, alors tu arrives au centre de formation, hein. Tu venais de Bourgoin.
T'as gagné en Crabos, c'est ça aussi?
Ouais, champion de France Crabos avec Nicolas Godignon qui était entraîneur à l'époque des Crabos. Ça a été une décision de ma part, j'ai jamais trop voulu quitter le club, je suis bien ici, je suis bien en famille avec ma femme et ma fille, donc c'est une région qui nous correspond. Au fur et à mesure des années, je me suis vraiment attaché à ce club et c'est mon club de cœur. Il est important pour moi de jouer avec ce maillot du CAB et puis essayer de pérenniser ce club dans le top 14.
Et merci beaucoup, Thomas Larangera.
Merci à vous.
Au revoir.
Allez, merci Thomas. Ciao.
Et on revient dans un instant sur RMC. Avoir un champion olympique, c'est bien. Olivier Giraud, en avoir deux, c'est mieux. Nicolas Karabatic sera notre invité sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
19h43 et on termine cette 2 heures d'Intégral Sport en 30 valeurs puisqu'on a toujours Olivier Giraud et on a le plaisir d'accueillir Nicolas Karabatic, champion olympique avec Olivier en 2008 à Pékin et puis on a eu deux autres derrière, des médailles d'or. Salut Nicolas.
Salut tout le monde.
Salut Nico.
Ah, on est heureux de t'accueillir. Je fais pas les présentations avec Olivier, hein.
Non, ça va aller.
Ça va être facile. Bon, j'ai bâclé un peu la présentation parce qu'il y a aussi 4 titres de champion du monde, 3 euros, 14 titres de champion de France.
C'est que là, tu vas prendre tes 20 minutes qui te restent pour
citer tout le paramètre de Nicolas. Et puis 7 titres de champion de France avec le PSG Hand, ça vous pose évidemment un champion. Alors Nicolas, vous êtes actuellement en prépa-ting, entre prépa physique, cohésion, c'est ça le programme ?
Le programme, c'est prépa physique surtout. Un tout petit peu de cohésion. On a fait du rafting hier matin, ça c'était pour la cohésion. Et le reste, c'est muscu, course et handball. Et en altitude, donc ça aide un petit peu à travailler le cardio.
Alors, comment ça se passe cette rentrée ? Parce que c'est une rentrée avec beaucoup de nouveaux joueurs, certains joueurs emblématiques, Mikkel Hansen, aussi tes coéquipiers historiques,
Nedim
Remili, Benoît Kounkoun ne sont plus là. Est-ce qu'il y a aussi cette cohésion, rester en France, aller à Tignes, c'est pour recréer une bonne cohésion avec tous ces nouveaux arrivants ?
Ben oui, on a besoin de recréer un groupe. On a la moitié de l'équipe, pas la moitié, mais on a 6 joueurs qui sont partis, des joueurs majeurs. On a des nouvelles recrues. Il y en a quelques-unes. Il y a Dominique Maté qui est arrivé blessé aussi. On a Johan Giblin qui est aussi un petit peu blessé. Donc on a besoin de passer du temps ensemble et de se connaître, bien sûr. Mais après, c'est pas pour cette raison qu'on est parti à Tignes. On est parti à Tignes parce que Coubertin est en travaux par rapport au JO, JOP de Paris 2024. Et donc, on n'a pas notre salle à dispo. Et c'est pour ça qu'on est parti à Tignes. Sinon, on serait resté à Paris.
D'accord.
Mais c'est pas plus mal parce qu'au moins, on est à la fraîche. Il fait bon. On est dans un hôtel sympa, dans des bonnes conditions de travail. Et on a pu faire un peu de rafting. Donc, au final, c'est cool.
Il y a aussi la changement de paire de gardiens. Vincent Gérard est parti. Yann Gentil aussi. Arrivé de Andreas Palicka, qui nous a fait souvent mal avec la Suède quand il affrontait l'équipe de Français. Et Yannick Gring, est-ce que, Nicolas, tu dirais que c'est un nouveau cycle ou il y a encore cette base, toi, Luca, Henrik Toftanset, Kamil Sipchak et Lukstein qui sont des tauliers, c'est pas la première saison où ils sont là. Ça fait que c'est pas totalement une page blanche pour le PSG Hand cette saison.
Non, bien sûr, c'est pas une page blanche parce qu'on a quand même une base de joueurs qui étaient là déjà l'an dernier, depuis quelques années. Donc il y a une ossature qui est là, bien évidemment, mais il y a quand même pas mal de renouvellement et du travail à ce niveau-là. Comme vous l'avez dit, on a notre paire de gardiens qui a changé complètement. Donc il y a des automatismes en défense à prendre aussi. Et donc ça demande du travail. Mais bien évidemment qu'on part pas d'une page blanche et que l'équipe reste ultra compétitive.
Tu sais, Nico, on compare ici, on parle beaucoup de foot, hein, on parle beaucoup du PSG foot. Je suis très heureux de parler du PSG handball. Et si on doit faire un petit parallèle, et celui-là, il va te toucher personnellement, parce que dans toutes les équipes où tu es passé, on va enlever la petite période ex, tu as gagné la Ligue des Champions. Est-ce que c'est l'ultime chose que tu dois aller chercher, que tu as encore envie d'aller chercher dans ces années que qui te restent au PSG ?
Ben, bien évidemment que c'est un énorme objectif de gagner la Ligue des Champions avec le PSG et que ça fait partie de nos objectifs cette saison et que ça fait partie de mes objectifs. Après, je suis arrivé à un moment dans ma carrière où c'est plus, je veux pas dire l'objectif prioritaire. Bien évidemment que j'ai envie de gagner tous les matchs avec des champions aussi, mais j'ai déjà tout gagné dans ma carrière et bien évidemment que je rêverais de faire gagner cette Ligue des Champions à mon club et à mes coéquipiers et à mon staff technique. Mais après, pour moi, l'objectif prioritaire, c'est de prendre du plaisir sur le terrain, de me donner à fond à l'entraînement et de voir jusqu'où je peux encore pousser mon corps. Et si tout va bien, si tout est au vert, parce qu'il y a énormément de paramètres, et bien à ce moment-là, je rêverai de ça en fin de saison. Mais c'est encore loin. Et là, on est en phase de préparation. Donc, je me concentre plutôt sur moi, sur mon corps et sur la façon dont je peux me préparer du mieux possible pour aborder cette saison qui va être longue et dure.
Nicolas Karabatic est avec nous dans l'Intégral Sport. Olivier, on en parlait en antenne. Souvent, quand les saisons s'accumulent, les sportifs nous disent la préparation, c'est ce qu'il y a de plus dur. Se remettre dedans, voilà, souffrir énormément. Hein.
T'as pas le choix en même temps. Plus tu souffres dans une préparation, plus ta saison va être tranquille. Mais c'est une souffrance, c'est d'aller vraiment au bout de soi-même, pratiquement aussi jusqu'à la limite de la rupture. C'est pour ça que les nouveaux staffs maintenant arrivent à calculer tout ça pour vraiment arrêter avant la rupture. Et le jour où tu n'es plus capable de vivre ces préparations difficiles, eh ben, en général, c'est là que tu arrêtes. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Nico, on parlait tout à l'heure d'un très grand joueur dans un autre sport. On parlait de Sergio Ramos et sa capacité à se dépasser, à revenir, alors qu'on pensait qu'il n'allait pas revenir. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu, et parce que tu n'en parles pas souvent, de ce rôle qui a évolué au fur et à mesure de ta carrière pour toujours rester à un certain niveau, et ton rôle que tu fais pratiquement évoluer naturellement.
Le rôle au sein de mon équipe.
Ouais, le rôle au sein de ton équipe, ça veut dire que dans ta jeunesse, tu as été le clutch player, celui qui, quand il rentrait, c'est à lui qu'on demandait toujours d'aller sauver la patrie, c'est à lui qu'on demandait de monter les balles, de défendre. T'as eu un rôle très important où carrément c'était toi qui portais l'équipe, et tu as su trouver cette mue, et j'aurais voulu t'entendre en parler, cette mue d'être un joueur qui se met aussi à un moment au service des autres, à l'intérieur du collectif, et c'est quelque chose qui est important à penser jusqu'à 2024.
Oui, alors après moi je m'adapte à ce que demandent mes entraîneurs, et voilà, selon les entraîneurs, mon rôle change aussi. Donc quand tu es sportif de haut niveau, le plus important c'est de savoir aussi s'adapter à ce qu'on te demande, et dans ta carrière tu rencontres des entraîneurs qui te demandent différentes choses, donc c'est ça, je m'adapte, et mon rôle évolue aussi par rapport à ce que les entraîneurs me demandent, et donc j'essaie de faire au mieux et de répondre au mieux à leurs exigences et à leurs demandes. Et pour moi, le plus important, c'est bien sûr de gagner et de gagner des titres et de respecter les consignes des coachs.
On parlait de la préparation physique, c'est dur, le plaisir est toujours là, même quand l'effort est dur, intense, et que le staff voilà, tire sur la corde pour évidemment en tirer les bénéfices durant la saison, Nicolas.
Oui, le plaisir est toujours là, mais c'est vrai que comme vous le disiez tout à l'heure, la préparation physique c'est le moins marrant, parce qu'on s'entraîne beaucoup, que les entraînements se ressemblent, et c'est vrai que sur des saisons qui sont longues comme ça, je m'en aperçois maintenant aussi avec l'âge qui avance. Ce qui est important, c'est aussi de savoir varier les entraînements, de prendre du plaisir à l'entraînement, parce que ça ne doit pas toujours être rébarbatif et long, même si c'est dur physiquement. Et donc je pense que c'est là où ça se joue aussi dans les dernières années, pour prolonger sa carrière, savoir prendre du plaisir à l'entraînement, et pour les coachs aussi savoir varier un peu les entraînements, les exercices, et que parfois ce soit aussi un petit peu fun et amusant. Mais pour l'instant, je prends encore du plaisir. Mais il y a des moments où je me dis pourquoi je fais ça encore.
Peut-être parce que il y a un objectif qui est quand même pour tout joueur, pour tout sportif, qui est quand même incroyable quand tu as joué des Jeux Olympiques pratiquement dans tous les coins du monde, d'avoir là à portée de main dans 2 ans seulement, parce que ça peut aller, c'est à la fois long mais c'est à la fois très court, les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est quelque chose quand même qui est extraordinaire pour toi de penser aux Jeux Olympiques pour pouvoir continuer à faire ces efforts?
Non, c'est pas quelque chose que j'ai en tête et qui me pousse au quotidien, parce que en fait, si là aujourd'hui je commence à penser aux Jeux Olympiques, je me dis oh là là, c'est très loin, et ça va être trop long. Il y a tellement de matchs, il y a tellement de préparation, il y a tellement d'échéances entre le PSG et l'équipe de France, que si je commence là aujourd'hui à penser aux Jeux Olympiques, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je fonctionne marche après marche et saison après saison. Donc, pour moi, l'état d'esprit, c'est plutôt voir cette saison, comment elle se passe, si j'arrive à tenir le rythme qui va être très élevé entre le PSG et l'équipe de France. Et si jamais ça se passe bien, pourquoi pas envisager la saison suivante. Et voilà, des décisions pour moi, si je l'envisage comme ça, ce sera petit à petit. Ouais, ouais, ouais.
avec un mondial en janvier pour l'équipe de France en Pologne et en Suède. Nicolas, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un mondial U18 féminin avec l'équipe de France qui se déroule avec un ballon sans résine.
J'ai vu passer l'info sur les réseaux sociaux, oui.
Et qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est vrai que c'est un débat un petit peu avec Olivier, parce que ça va au-delà. Alors, dans le sport professionnel, dans le handball professionnel, il n'y a pas trop de soucis de colle et de résine, mais c'est vrai qu'au niveau amateur, on les interdit de plus en plus. On a vu Nedim Remili mettre un petit message. Ciao les artistes, c'est fini. Est-ce que tu as un avis sur cette question?
Moi, personnellement, je n'utilise pas de colle et ça me dérange d'avoir des ballons pleins de colle parce que tu as des joueurs qui en mettent 2 tonnes. Mais après, chacun a son envie, chacun a ses ressentis et son feeling. Si le ballon est bien fait et qu'on n'a pas besoin de colle pour le tenir, bien évidemment que c'est positif parce que ça nous évitera de gaspiller de la colle pour rien. Mais après, on avait testé une fois des ballons à l'entraînement et je trouvais que c'était pas encore vraiment ça, vraiment top le rendu. Donc si jamais on arrive à faire des vrais ballons qu'on arrive à tenir sans colle, c'est super. Mais sinon, ça sert à rien, ou alors limiter l'utilisation de colle et que chaque joueur ne remette pas sa tonne de colle sur le ballon, parce que c'est pour les joueurs, pour certains joueurs, c'est pas marrant d'avoir un ballon qui te colle à la main et tu peux pas faire une passe correctement. Mais c'est vrai que c'est un débat et que dans le handball on est habitué à la colle, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs et spécialement les ailiers qui en mettent beaucoup.
J'en étais sûr que t'allais dire ça. Hein? C'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Et ce débat, oui, c'est un débat qui a beaucoup. Tu sais, c'est les guerres dans les salles un petit peu. Tu sais, dans les mairies, c'est souvent les basketteurs. C'est souvent les basketteurs qui protestent. Mais tu sais que pendant très longtemps, les jeunes, en fait, c'est une nouvelle mode parce que les jeunes veulent copier les roucoulettes et les gestes techniques des pros. Mais pendant très longtemps, et moi, j'en fais partie, nos générations, il n'y avait que les seniors qui utilisaient de la colle. Et finalement, les jeunes, en même temps, on avait des ballons en plastique, mettre de la colle dessus, ça aurait été contre-productif. Mais c'est un débat qui arrive et que peut-être ça va aider la technologie, parce que, en fait, c'est toujours de problèmes qu'on trouve des solutions. Et que ça fait quelques années que certaines marques et plusieurs marques se sont attelées à trouver la technologie qui permet que le ballon colle mais ne laisse plus de traces. On verra si ça arrive, mais en tout cas, il n'est pas d'actualité que ça se passe pour le sport professionnel.
Non, pas encore.
Merci beaucoup Nicolas Karabatic en préparation avec le PSG Hand à Ting. Plaisir partagé, évidemment. On suivra cette saison du PSG Hand en Star League, également Coupe de France, Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions, où on espère évidemment vous retrouver au Final Four dans quelques mois. Merci beaucoup Nicolas Karabatic.
Merci à vous.
Salut Nico.
Merci beaucoup Olivier. Ciao. Content d'avoir parlé handball, j'imagine.
Ça arrive trop rarement, fais le plus souvent.
Je prends la consigne. Demain, je te le garantis pas. Il y en aura du basket demain. On demandera, l'avis sur la colle à Vincent Poirier, qui devrait être notre invité demain. Merci beaucoup,
salut,
Olivier. On se retrouve demain vendredi pour 2 heures d'Intégral Sport, 18h-20h. L'after arrive sur RMC avec Timothée Mémon. Salut Timothée.
Salut Arnaud, salut à tous. Effectivement, on va faire un petit tour de France avant la reprise de la Ligue 1. On sera à Monaco, à Nice, à Lorient, à Brest, à Angers, à Rennes, à Nantes. Bref, à Toulouse également. Vous nous appelez au 32-16, évidemment, supporters des clubs qui vont reprendre la saison de Ligue 1 ce week-end.
RMC, l'After Live.